Pourquoi, dit-elle, n'y a-t-il pas un autre chemin plus lisse qui serait plus facile à emprunter que celui-ci qui est tout bosselé et rocailleux? Il y en a un, lui répondit son frère aîné, mais comment ferais-tu pour monter jusqu'au sommet si tu n'avais pas ces pierres et ces bosses? Car vois-tu, ces pierres et ces bosses nous permettent de bien appuyer nos pieds afin de ne pas glisser et de pouvoir nous rendre au sommet de cette colline. Ainsi, frères et sœurs, en est-il avec Dieu dans sa fidélité? Il permet que nous affrontions certaines difficultés sur le chemin sur lequel nous marchons et dont certains considèrent comme étant souvent malheureusement des pierres d'achoppement. Pourtant, pour le chrétien, les obstacles qu'il rencontre sur sa route peuvent être comparés à des pierrailles qui lui permettront de s'agripper et de progresser toujours plus haut dans sa relation avec le Seigneur. Et souvent, frères et sœurs, nos vies ressemblent à ces collines, à cette colline que cette jeune fille devait grimper. Nous nous laissons facilement effrayer par les bosses et par les pierres que nous devons surmonter au quotidien dans notre marche chrétienne. Nous oublions que dans tout ce que nous affrontons, Dieu a un plan, et même si Dieu permet que nous vivions des choses difficiles, son but est toujours de nous faire grimper plus haut. Amen. Lisons ensemble les versets 13 à 16. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Tout dans l'ensemble de la création se trouve à nu et à découvert devant ses yeux, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais il n'a pas commis de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où est la grâce. Nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que tu nous as laissée. Merci pour ces passages, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous édifies, que tu nous fortifies, que tu nous exhortes, que tu nous encourages ce matin. Et Seigneur, nous voulons surtout que tu occupes toute la place qui te revient et nous voulons par-dessus tout que tu en sortes glorifié. Et de notre côté, nous voulons en ressortir grandi. Nous te demandons ton aide, Seigneur, afin que tous et chacun, ici en particulier, puissent recevoir cette portion que tu en réserves pour eux, afin de quitter ces lieux avec la certitude que tu leur as parlé et que tu veux les faire progresser dans leur foi et dans leur connaissance de la personne de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Au verset 14, nous voyons que ces Hébreux vivaient des moments difficiles. Ils subissaient des persécutions et plusieurs étaient non seulement torturés, mais tués à cause de leur foi. De plus, ils avaient été mis à l'écart de la communauté et ils ne pouvaient ni acheter ni vendre des biens, dans les villes aux alentours. Leur foi était rudement mise à l'épreuve et non seulement plusieurs se sentaient abandonnés, mais ils étaient tentés de ne plus rendre témoignage publiquement de leur foi en Jésus, afin de pouvoir jouir d'une vie plus facile. Et bien que nous ne soyons pas persécutés aujourd'hui à cause de notre foi, nous sommes tentés souvent de vivre une foi qui ne coïncide pas nécessairement avec l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tentés de regarder ailleurs pour trouver de l'aide plutôt que de nous tourner vers le Seigneur. Puis-je vous rappeler, frères et sœurs, que Jésus-Christ est largement supérieur à toute autre forme d'aide qui puisse exister dans ce bon monde. Et chers amis, le plan de Dieu est toujours le même, celui de vivre par la foi. Amen. Celui de vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. On le retrouve dans l'Ancien, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Ça ne change pas. Et j'aimerais vous montrer ce matin, à partir de ces quelques versets que nous venons de lire, pourquoi Jésus est digne que nous croyons en lui, pourquoi Jésus est digne que nous lui fassions confiance. J'aimerais que vous puissiez avoir la certitude, si vous êtes dans le doute ce matin, que vous pouvez lui faire confiance pour tous les besoins dont vous aurez à faire face dans cette vie. Après tout, si nous pouvons faire confiance à Jésus, pour nous laver de nos péchés et nous donner la vie éternelle, nous pouvons lui faire confiance concernant les petits problèmes auxquels nous devons faire face au quotidien. Regardons maintenant, donc, pourquoi Jésus est digne que nous placions notre foi en lui. Premièrement, Dieu a la capacité en Jésus-Christ de voir en tout temps ce que vous vivez. Verset 13, verset 14. Dieu a la capacité de voir en tout temps ce que vous vivez. Et j'espère que c'est une certitude pour vous. Il n'y a rien dans la création qui puisse être caché à Dieu, nous dit le texte. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Ce verset rappelle aux hommes que Dieu conserve un registre, et qu'au jour du jugement, eh bien, si le Seigneur sera assis sur un grand trône blanc et les morts, grands et petits, qui seront debout devant lui, le verront ouvrir des livres, ainsi qu'un autre livre, le livre de vie. Le livre de vie, c'est pour ceux qui ont pris une décision pour le Seigneur, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Les autres livres, tout ce qu'ils vont entendre, c'est la liste des péchés qu'ils auront connus, c'est-à-dire, finalement, une liste de ce qui va permettre à Dieu de dire, écoutez, vous ne faites pas partie de ma famille. Vous avez accepté de vivre comme vous vouliez. Voici ce qui vous attend. Et c'est épeurant, c'est terrible, hein, parce que ce que je suis en train de vous lire, c'est pas le pasteur qui le dit, c'est la parole dans Apocalypse chapitre 20. Il dit, les morts seront jugés selon ce qu'ils ont fait, d'après ce qu'il y a dans les livres. Quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie sera jeté dans le lac de feu qui est la seconde mort. Et c'est important de se rappeler que l'enfer, c'est pas une plaine de jeu où on a tout à portée de la main, hein. La Bible est claire ici. C'est la seconde mort, c'est le lac de feu. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y aura la résurrection des justes, la résurrection des injustes. Tout le monde va avoir un corps éternel. Les uns pour vivre dans la félicité éternelle et les autres pour souffrir dans un corps éternel. Et peu importe le degré de brûlure, peu importe la chaleur qu'il va faire, il n'y a rien qui va fondre puisque ce corps, il est incorruptible. Il est incorruptible. Maintenant, où vont les morts quand ils meurent? Ben, et on le voit après, on voit en fonction de ce que Jésus dit aux malfaiteurs. On le voit aussi en fonction de ce que Jésus dit dans Luc chapitre 16. Ceux qui meurent sans Christ s'en vont dans le séjour des morts en attente du jugement. Et c'est pour ça qu'ils sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est l'enfer. Et c'est pour ça que quand ils arrivent au jugement dernier, ils quittent le séjour des morts pour comparaître devant Dieu et là, eh bien, d'être envoyés dans le lac de feu. C'est épouvantable. C'est pas symbolique, hein. C'est quelque chose qui est littéral, quoi. Et on a besoin de prier pour nos enfants. On a besoin de prier pour ceux qu'on aime. Mais on a besoin aussi de prier pour le monde parce que Jésus a prié pour ce monde. Et il est à la droite de son Père aujourd'hui. Il intercède pour que ses enfants puissent aussi avoir le cœur d'intercéder. Et frères et sœurs, le manque de prière dans nos vies, ça démontre un manque d'amour envers nos frères et sœurs, ça démontre un manque d'amour envers les gens du monde. Le prophète Samuel a dit, je ne m'empêcherai pas de prier pour vous de peur de pécher. Pour Samuel, c'était un péché de ne pas prier pour ses frères et sœurs qui faisaient partie du peuple de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. On a besoin de prier, on a besoin de prier pour ce monde qui s'en va nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Et frères et sœurs, ça fait des mois, des années que je vous dis que la persécution s'en vient. À l'Assemblée nationale de France cette semaine, à l'Assemblée nationale française, on a voté une loi où ceux qui sont contre l'avortement n'auront plus le droit de donner les raisons pourquoi une femme ne peut pas se faire avorter, ne peuvent plus dire les conséquences d'un avortement, sinon ils sont punissables d'une amende et punissables de la prison. Et j'entendais la ministre qui a soutenu ce projet, elle disait, écoutez, il faut empêcher les gens de raconter des mensonges à ceux et celles qui veulent se faire avorter. C'est épouvantable, quoi. C'est épouvantable quand on sait qu'il y a des femmes qui se font avorter, qui traînent ça pendant toute leur vie, psychologiquement parlant. Frères et sœurs, on est en train de vivre ce que l'Union soviétique vivait à travers la dictature. Maintenant, démocratiquement, on est en train de nous menotter au niveau de l'opinion, non seulement de penser, mais aussi de parler. Et je peux vous dire une chose, ce que le gouvernement vient de voter aujourd'hui, ça sera enseigné à vos enfants dans les écoles, ça vous pouvez en être certain. Vous pouvez en être certain que ça va être parce que c'est une loi, c'est légal, et il y a des cahiers, il y a un frère ici, je nommerai pas qui, il y a un cahier que son fils ne peut pas ramener à l'école, ne peut pas ramener à la maison. Alors, c'est pas normal qu'on enseigne à nos enfants dans l'école et qu'on n'a pas le droit de voir le contenu de ce livre. Frères et sœurs, on a besoin de s'ouvrir les yeux. Je pense qu'on est en train de revenir, le balancier est en train de revenir, et l'Église a sa place, doit trouver sa place là-dedans. L'Église a une parole à prononcer, et peu importe ce que les gens pensent, eh bien, on doit proclamer cette parole. Il y a des bouffons, il y a des malades à l'extérieur qui ont une philosophie complètement déraillée, et il y a des gens qui accrochent à cette philosophie-là, qui se font traiter de fous et pourtant qui n'ont pas peur de raconter ce qu'ils pensent. On a besoin de témoigner, de rendre témoignage de la vérité, frères et sœurs. Il y va de la santé spirituelle de nos enfants. Au Québec, en primaire, on fait passer, le gouvernement paye des prodéos pour faire le tour des classes, pour annoncer aux enfants, enseigner aux enfants leurs droits contre leurs parents. C'est incroyable. Et au Québec, on trouve des enfants qui traînent leurs parents devant les tribunaux parce qu'ils ont reçu une tape sur les fesses, parce qu'on n'a plus le droit de donner la fessée à nos enfants. Frères et sœurs, on a besoin, mais vous voyez bien que c'est anti-biblique. Dieu nous dit qu'on peut corriger l'enfant. Il ne nous dit pas de lui donner, de le battre, de corriger un enfant. L'avortement, Dieu est clair là-dessus. Et c'est intéressant, hein? On ne prononce jamais l'avortement. C'est pas la loi contre l'avortement qu'on a prononcée cette semaine, c'est contre l'IVG, hein? C'est l'IVG, hein? Frères et sœurs, on a besoin, est-ce que vous réalisez la grande responsabilité qui pèse sur nos épaules de pouvoir rendre témoignage de l'héritage que Jésus et que Dieu nous a laissé dans sa parole? Et c'est à vous que Dieu a confié ça, c'est à moi que Dieu a confié ça. Et c'est pas juste du haut de la chair, c'est au quotidien quand on rencontre des gens et qu'on a l'occasion de pouvoir leur rendre témoignage. Eh bien, c'est de dire ce qu'on pense, de dire ce à quoi on croit. On n'est pas là pour se faire aimer des gens, quoi. On est là pour être approuvé par Dieu. Moi, j'en ai rien à cirer, rendu à mon âge, j'en ai rien à cirer d'être approuvé par les gens. Ce qui est important pour moi, c'est d'être approuvé par Dieu, parce que c'est devant Dieu que je vais comparaître. Et c'est devant Dieu que j'aurai des comptes à rendre. Et c'est la même chose pour vous, frères et sœurs. Et Dieu veut lever une armée dans son Église pour pouvoir simplement rendre témoignage. On n'est pas là pour agresser les gens, mais on est là quand même pour être convaincu de partager de façon convaincue ce à quoi on croit. Amen. Vraiment important, frères et sœurs, que on puisse se rappeler de ça. Rien n'échappe à Dieu, il dirige ses regards partout, il observe aussi bien les bons que les méchants. Il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Il voit les épreuves que vous traversez, les tentations que vous devez affronter. De plus, il voit non seulement les larmes qui coulent de vos joues, mais ça, c'est extraordinaire dans le texte biblique, c'est qu'il dit, mais il en connaît le nombre, il les recueille dans son outre. Vous imaginez, quand vous pleurez, ce que vous êtes incapable de prononcer en parole parce que vos larmes coulent trop et que vous êtes bloqué, eh bien, Dieu est capable de lire dans vos larmes ce que vous auriez voulu exprimer en prière. Et ces larmes ne sont pas perdues parce que Dieu les recueille avec son outre, nous dit la parole. Quelle belle image! Quelle belle image! Alors, on se met à genoux, des fois, on est tellement bloqué à cause d'une difficulté, à cause d'une épreuve, on ne sait pas quoi dire au Seigneur, et là, ça nous coule sur les joues, et Dieu est là. On ne le voit pas, mais on y croit parce que la parole, Dieu, il recueille nos larmes. Il recueille nos larmes. Et dans les larmes, il est capable de lire ce qu'on voulait lui exprimer, mais dont notre cœur était serré, bloqué, où on était incapable de s'exprimer. Quelle belle image! Et c'est ça Dieu pour ses enfants aussi. C'est ça Dieu. Et quand vous n'êtes pas capable de pleurer, Dieu est capable de lire dans votre cœur ce que vous vouliez lui exprimer, que vous n'étiez pas capable de faire, à cause de votre grande tristesse, de votre grand désarroi. Quel Dieu merveilleux on a, frères et sœurs. Quel Dieu merveilleux nous avons. Amen. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. Ressentez-vous la main de Dieu qui vient vous chercher, qui est tendue, qui vient vous chercher quand vous vivez des difficultés, quand vous êtes déprimé, quand vous ne voyez pas de solution? La solution, elle est toujours dans la main de Dieu. Dieu tend sa main vers vous et Dieu tend sa main vers moi. Chers amis, l'homme élabore des plans, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Peu importe ce que vous vivez dans la vie, soyez assurés que Dieu est toujours en contrôle de tout ce qui arrive. Et vous savez du reste que c'est pour votre bien. Même dans la maladie, même dans des épreuves difficiles, on est toujours avec la question, pourquoi, pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et le Seigneur, il tarde souvent dans ses réponses. Tarde dans ses réponses. Et je l'ai dit tantôt dans la présidence, c'est que Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Il fait confiance parce qu'il sait ce qu'il fait et il sait les raisons pour lesquelles il le fait. Rappelez-vous ce que Joseph a dit à ses frères, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. » Parce qu'il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Et frères et sœurs, s'il y a des gens qui vous font du mal, s'il vous arrive des choses difficiles, s'il y a des gens qui vous attristent, si Dieu le permet, frères et sœurs, comme Joseph, le but de Dieu, c'est de se glorifier. Et j'imagine que Joseph, Ça ne devait pas être facile. Vous savez, quand on lit ça, on n'a pas les sentiments, on n'a pas les émotions qui sont inscrites dans le livre, dans la parole de ce que Joseph a vécu. Mais si vous lisez la parole, comme Jésus, je ne suis pas en train de dire que Joseph était sans péché, mais comme Jésus, on n'a rien, aucun péché à relever du côté de Joseph. Aucun. Il n'y a aucun parmi les héros de la foi dans la parole, il n'y a aucun, comme Joseph ou les péchés, Enoch aussi, mais Joseph, il n'y a aucun péché qui est relevé durant toute sa vie. Et il y a quand même une grande partie, je ne me souviens pas du pourcentage, je l'avais dit lorsqu'on avait parlé de Joseph, mais une grande partie de la Genèse qui est consacrée à la vie de Joseph et à l'œuvre de Joseph. Et frères et sœurs, je m'imagine Joseph qui devait à un moment donné se poser des questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je t'obéis, regarde ce que ça me rapporte. Et lui qui désobéit, vit bien. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? J'ai refusé de coucher avec une femme qui n'était pas la mienne. Et Seigneur, je viens de t'écoper combien d'années de prison? Seigneur, je viens de raconter, dévoiler deux rêves à deux prisonniers qui travaillent étroitement avec le Pharaon. Je leur ai dit de ne pas m'oublier. Seigneur, ils m'ont complètement oublié. Ils m'ont oublié, Seigneur, quand ils ont quitté. Ils avaient retrouvé leur liberté. Et tout ce que ses frères lui ont fait vivre. Et les paroles de Joseph ici, quel homme de foi. Si vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé en bien, ce mal en bien, parce qu'il a voulu sauver la vie d'un plus grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Et ça a pris ce nombre d'années pour préparer Joseph à devenir l'égal de Pharaon, un esclave, l'égal de Pharaon. Et il le dit, Dieu a permis dans le temps que vous me fassiez du mal, mais regardez dans quel but. C'est que je sois vendu aux Amalécites, que je sois revendu à Potiphar, rendu en Égypte, que je sois amené en prison pour dévoiler le songe de deux personnes. Et quand le Pharaon eut des songes, eh bien, il a demandé à ses magiciens s'ils pouvaient interpréter. Personne n'était capable. Et là, un des deux qui avait été délivré a dit, je me souviens d'un prisonnier à l'époque qui a raconté qui a raconté mon songe. Et on est allé le chercher. Et le Pharaon, il est devenu l'égal du Pharaon. Frères et sœurs, vous vivez peut-être des choses dans votre vie. Mais chaque chose que vous vivez, ça n'a jamais pour but de vous détruire. C'est toujours dans le but de vous construire, de vous faire monter toujours plus haut. Le Seigneur n'est pas là pour nous. Il ne nous a pas sortis de la boue pour nous salir encore davantage. Le Seigneur, il nous a sortis de la boue pour nous amener à progresser et à aller toujours plus haut. Amen. Rappelez-vous de Ruth. Hein? Ruth, elle va glaner dans un champ derrière les moissonneurs et elle découvre que ce champ, par hasard, non, que ce champ appartenait à Boaz, le parent de son beau-père. Il n'y a rien dans la vie d'un enfant de Dieu qui arrive par hasard. Il n'y a que Dieu dans sa providence qui agit pour faire progresser son enfant dans la foi. Et ce que Dieu permet qu'il survienne dans nos vies n'est pas toujours agréable, je le répète à vie, mais tout ce que Dieu fait est juste et c'est pour notre bien. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste et c'est toujours pour notre bien. Un petit garçon était en train de jouer avec son voilier au bord d'un lac lorsque le vent poussa le voilier hors de la portée de l'enfant. Lorsqu'il vit que son bateau s'éloignait de plus en plus du bord du lac, il commença à pleurer. Et un adolescent qui voit la scène commence à lancer des pierres en direction du voilier. Et le petit garçon dit, pourquoi tu jettes des pierres, toi, sur mon voilier? Et l'adolescent lui répond, tu sais pas ce que je fais. Je suis en train de jeter des pierres de l'autre côté de ton voilier pour créer des vagues qui le ramèneront vers toi. Frères et sœurs, il lui dit, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Dieu sait ce qu'il fait lorsqu'il lance des pierres dans nos vies. Elles sont simplement destinées à créer des vagues afin de nous rapprocher davantage de lui et non pas de nous éloigner de lui. La grande majorité des gens préfèrent qu'il fasse toujours soleil, mais essayez juste d'imaginer à quoi ressemblerait notre monde s'il ne pleuvait jamais. Il y a une région située entre la grande cordillère des Andes et l'océan Pacifique, dans le nord du Chili, où la pluie ne tombe jamais. Tous les matins, le soleil se lève sur les montagnes. Tous les midis, il brille dans les vallées. Et tous les soirs, vous assistez à un magnifique coucher de soleil. Bien que les tempêtes font souvent rage dans les montagnes et que d'énormes bancs de brouillard à couper au couteau, on dit ça ici à couper au couteau, sont observés au-dessus de la mer, le soleil continue à briller sur cette bande de terre favorisée et protégée. On pourrait penser que cette région, elle ressemble vraiment à un paradis terrestre sur Terre. Mais ce n'est pas le cas. Cette région, frères et sœurs, elle est désertique et stérile parce qu'il n'y a aucune source d'eau. Alors, il n'y a rien qui pousse à cet endroit. Et trop souvent, nous souhaitons voir le soleil briller et vivre sans nuages. Nous souhaitons ne pas avoir de lourdes responsabilités à assumer. Mais comme cette région non fertile au Chili, qui bénéficie pourtant tout le temps du soleil, une vie sans fardeau et sans épreuve qui n'offre aucun défi à relever ne sera ni stimulante ni productive. Nous avons besoin non seulement du soleil, mais nous avons aussi besoin de la vie pour vivre une vie intéressante. Amen. Ouais. Des contrôles. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on a demandé à des métallurgistes de tester l'acier qui serait utilisé pour construire les chars d'assaut qui seraient fournis aux soldats américains qui combattaient au front. Et ils devaient s'assurer que le métal n'était ni trop dur ni trop mou lorsqu'il venait de passer dans les fours. Et on appliquait alors une certaine pression pour déterminer la limite de résistance que l'acier avait, pour savoir si on pouvait utiliser. Des contrôles étaient également faits afin de s'assurer que l'armure que les soldats porteraient résisterait aux balles. Si des faiblesses apparaissaient dans l'acier, on le trempait encore un peu plus longtemps, et lorsqu'il quittait l'usine, il était bien préparé à résister à la pression auquel les soldats devaient faire face lors des combats. Ainsi en est-il pour les enfants de Dieu, pour bien nous préparer à travailler et à devenir des instruments de louange. Le Seigneur nous passe dans le four des épreuves et nous envoie ensuite dans la salle de test de la vie où nous subissons constamment la pression pour nous sanctifier et révéler nos faiblesses, afin que dans sa grâce, il puisse nous transformer et travailler ce qui ne va pas dans nos vies. Dernière illustration. On venait d'apprendre à un couple qu'il venait de perdre. C'est un fait vécu, hein? On venait d'apprendre à un couple qu'il venait de perdre tous les deux leur emploi. Ils étaient dévastés, sachant qu'ils avaient plusieurs dettes à payer à la fin du mois. Alors qu'ils venaient d'accepter cette terrible épreuve, leur fosse sceptique s'effondra et une partie de la cour arrière céda. N'ayant pas l'argent nécessaire pour faire appel à un entrepreneur pour réparer si possible la fosse sceptique, le mari décida d'effectuer lui-même les travaux. Alors qu'il était en train de creuser, il remarqua quelque chose qui brillait dans la boue. Il ramassa l'objet pour s'apercevoir qu'il tenait dans ses mains une pièce d'or. Excité, il continua à creuser, il découvrit plusieurs autres pièces d'or. On évalua le tout à environ 1 500 000 $. Ce que lui et son épouse avaient considéré comme étant une terrible tragédie, Dieu l'avait utilisé pour se glorifier. Frères et sœurs, souvent il arrive des choses dans nos vies, on voit ça comme étant une terrible tragédie. Et trop souvent, Dieu l'utilise, veut l'utiliser pour se glorifier. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? C'est vraiment ça. Et c'est difficile, c'est un combat pour nous tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui nous enseigne le contraire dès notre naissance. Dès notre naissance. On vit dans un monde qui nous enseigne le contraire de la parole. Quand on te fait du mal, c'est jamais pour ton bien. Voilà pourquoi on a des lois qui disent, bien, ton père n'a plus le droit de te taper, ta mère n'a plus le droit de te donner des tapes sur ta couche, hein, sur ton pampers, quoi. Ça fait pas mal, hein? Ça fait juste saisir, hein? On n'a plus le droit, quoi. Pourquoi? Parce que c'est pas pour notre bien. Ouais. Moi, je pense que quand on tape un bébé sur une couche, c'est plutôt une caresse qu'une tape. Hein? Mais voilà. Mes frères et sœurs, peu importe la tragédie que vous vivez, Dieu l'utilise pour se glorifier. Tout ce que Dieu permet qu'il vous arrive dans votre vie est tout simplement sa façon de faire pour vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Dieu veut que son influence grandisse et que la nôtre diminue. Et Jean-Baptiste avait compris. Et Jean-Baptiste, s'il n'avait pas compris ce principe, il aurait fini par lutter contre Jésus. Ouais. Il aurait dit, il n'est pas question que moi je diminue, j'ai un beau ministère, les gens viennent se faire baptiser, les gens viennent à la repentance, il n'est pas question. Et Jean-Baptiste a dit, eh bien, il faut que je diminue pour que lui puisse grandir. Deuxièmement, Dieu a la capacité de compatir à votre douleur, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Regardez, pensez à ce qu'Étienne va dire au moment où on allait le lapider. Il regarde vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu, de l'homme, debout à la droite de Dieu. Pensez à Saul de Tarse, frères et sœurs, qui était en route pour Damas, quand tout à coup lumière vient du ciel, brille tout autour de lui. Il tombe à terre et il entend une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » De même que Jésus a compati à la douleur de ces gens, de même il compatit à votre douleur ce matin, si c'est le cas. Frères et sœurs, je suis persuadé qu'à chaque fois que ces enfants On a un seul endroit où Jésus se lève, dans la parole, hein, qui quitte, il est assis à la droite de Dieu, qui se lève. Mais je suis persuadé que le Seigneur, quand ses enfants souffrent pour la cause du royaume de Dieu, je suis persuadé que si Jésus ne se lève pas, il doit être tenté de se lever pour nous montrer, nous donner cette image, nous rappeler cette image avec Étienne, qu'il compatit à nos souffrances. Parce qu'il a passé, il a vécu les mêmes choses que nous, et il a vécu pire que nous. S'il y en a bien un qui peut nous comprendre dans ce que nous vivons, dans les tragédies que nous vivons, c'est bien Jésus-Christ. Lorsque vous avez un besoin particulier dans votre vie, Dieu compatit et prend soin de répondre à ce besoin. Jésus sait ce que vous vous ressentez, il compatit avec vous. Lorsque vous souffrez, il souffre avec vous. Est-ce que vous êtes convaincus de ça ce matin, frères et sœurs? Combien de fois on vit quelque chose et on dit, il n'y a personne qui me comprend, mon œil, lui comprend. Lorsque vous souffrez, il souffre avec vous, frères et sœurs. Vous ne pouvez jamais dire, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, que vous êtes tout seul à souffrir. Que vous êtes tout seul à comprendre que les autres ne comprennent rien. Il y en a au moins un autre qui comprend parfaitement. Et vous savez, le mot compatir, c'est se mettre à la place de l'autre dans sa souffrance. Il comprend très, très bien ce que vous vivez. Il comprend très bien ce que je vis quand je passe par des moments difficiles. Et il a la solution. Parce qu'il n'y a personne qui finira par souffrir autant que Jésus a souffert. Donc, on peut dire que nos petites souffrances, il les connaît très bien. Et il souffre avec nous. Mais ce qui est béni, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 13, peu importe ce que vous souffrez, ce Dieu ne permettra jamais que ce soit au-delà de vos forces. Amen. Là, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la parole qui le dit. Et vous avez besoin non seulement de dire Amen, qu'il en soit ainsi, mais j'y crois, quoi. Ça doit être accompagné d'un pas de foi, votre Amen. Quoi. Ouais. Quand vous souffrez, Jésus souffre avec vous. Certains peuvent se dire en eux-mêmes, comment Jésus peut-il savoir jusqu'à quel point je souffre dans ce que je vis présentement? Il est parfait, il est rendu au ciel, il habite dans le ciel. Comment est-il possible qu'il puisse comprendre ma souffrance? Frères et sœurs, il est capable de savoir ce que nous ressentons parce qu'il a vécu en tant qu'homme sur la terre et qu'il a expérimenté les mêmes difficultés auxquelles vous êtes confrontés ce matin. Les mêmes tentations, les mêmes difficultés. Moi, ça me fait rire quand on me dit, « Ouais, mais c'était plus facile dans l'ancien temps, il n'y avait pas toutes les mêmes tentations qu'avant, qu'aujourd'hui. » Hey! Vous pensez qu'on vient d'inventer le monde au 20e siècle, au 21e siècle? Déjà, dans les premiers livres de la parole de Dieu, on dit que c'est un péché, la bestialité. Donc, l'homme n'a rien inventé aujourd'hui, hein? L'homme était aussi pourri aujourd'hui qu'il l'était dans l'Ancien Testament, hein? L'homme est capable de commettre les mêmes péchés aujourd'hui qu'il commettait dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, hein? Alors, le Seigneur, il sait, les difficultés que vous expérimentez, les tentations que vous expérimentez, il les a passées aussi. Alors, il sait comment vous consoler. Il sait comment vous réconforter dans sa parole. Pourquoi on court à droite et à gauche? À cause d'un manque de connaissance de la parole. Pourquoi on appelle Pierre Jean-Jacques tout de suite quand ça ne va pas? À cause d'un manque de connaissance de la parole. Dieu nous parle dans sa parole. Dieu nous donne les solutions, ses solutions, pour qu'on arrête de s'énerver, qu'on court à droite et à gauche comme des poules sans tête. Dieu nous donne la solution. Mais si on ne connaît pas la parole, c'est certain que le premier réflexe, c'est de ne pas plonger nos regards dans la parole. Vous avez vu le nombre de pages qu'il y a à chercher pour trouver notre réponse, si on ne connaît pas la parole. Mais quand on a médité les Écritures et qu'on vit un problème, Dieu est fidèle, il nous oriente là où on a besoin d'être orienté pour que sa parole puisse produire un effet dans nos vies, nous consoler, nous réconforter, nous encourager à continuer à marcher. Et comme Jésus l'a dit, comme Paul l'a dit, de réaliser que c'est pas quelque chose d'exceptionnel de ce que l'on vit, c'est ce qui souvent est réservé aux enfants de Dieu, parce qu'on appartient au Seigneur. Il a été tenté dans chacun des domaines auxquels nous sommes tentés aujourd'hui, et le diable l'a tenté de satisfaire ses propres désirs et de posséder tout ce que l'on voit, toutes ces choses qui viennent non pas du Père, mais du monde. Les tentations qu'il a dû affronter ont probablement été supérieures en intensité que les nôtres du fait qu'il était sans péché. Car voyez-vous, il était non seulement sans péché, tout en ayant la capacité de pécher, dans son 100% homme, mais il avait une haine et un dégoût du péché que peu de nous ne pouvons imaginer. Et frères et sœurs, dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Une haine et un dégoût du péché. Frères et sœurs, dans la parole, il nous est dit de nous aimer les uns les autres. La seule chose qu'on nous demande de détester et d'haïr, c'est le péché. Et pourquoi il y a une différence entre la vraie repentance et la fausse repentance? Quand quelqu'un passait par la vraie repentance qui conduit à la conversion et à une nouvelle naissance, il déteste le péché, il voit le péché comme Dieu le voit, et il finit par détester le péché comme Dieu le déteste. Ça, c'est des signes de la nouvelle. Ça, c'est des signes d'une vraie repentance qui conduit à la nouvelle naissance. Il est impossible pour quelqu'un qui est né de nouveau de toujours rester esclave du même péché. C'est impossible. Puisque la parole le dit, ce n'est pas le pasteur qui le dit, il nous a libérés de l'esclavage du péché. Frères et sœurs, combien de temps êtes-vous capable de ne pas commettre de péché? Combien de temps êtes-vous capable de ne pas commettre de péché? Le temps que vous choisissez de ne pas pécher. Il y en a, c'est une demi-journée. Il y en a, c'est plus. Mais c'est vous qui choisissez de pécher. Le péché est toujours un choix personnel. Je ne peux pas reprocher à quelqu'un de m'avoir amené à pécher. Si quelqu'un, parce qu'il m'a crié des noms, j'ai réagi, j'ai commis un péché, la parole me dit qu'il me manque un fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Combien de temps êtes-vous capable de ne pas pécher? Le temps que vous choisissez de ne pas pécher? C'est simple, hein? Et ça nous évite de reporter nos péchés sur le dos des autres, et surtout, sur quelqu'un qui a le dos très large, le diable. Ah, c'est à cause du diable si j'ai recommencé à me droguer. Ah, c'est la cause du diable si j'ai recommencé à boire. Non, non. Le diable ne peut pas venir te porter une bouteille de bière dans les mains. Il dit, allez, vas-y. Hein. Non. C'est nous qui se compliquons la vie avec le péché. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'on a la capacité de dire non au péché. On n'est pas, moi, je ne pense pas, en tout cas, je ne trouve pas aucune place où Paul fait le lien, dire un chrétien est un pécheur. Nulle part, Paul utilise ça. Hein. Non. Non. On était sauvés par grâce. On est devenus des enfants de Dieu qui avons la capacité de commettre des péchés, qui avons la capacité de dire non au péché, alors qu'un pécheur est incapable de le faire. Ça, c'est le miracle qui se passe à la nouvelle naissance. Par conséquent, être confronté face à face avec le péché était quelque chose d'horrible pour le Seigneur Jésus, puis donc vous aider, puis donc m'aider quand vous êtes tenté. Il a vu beaucoup, il sait ce que c'est que d'être rejeté. Il a vu beaucoup de ses disciples se retirer et cesser d'aller avec lui. Il sait ce que c'est que d'avoir le monde vous tourner le dos. En fait, il sait ce que c'est que de vivre des choses que personne dans cette salle n'expérimentera jamais. Il sait ce que c'est que d'être abandonné alors que nous aurions besoin plutôt d'être soutenus. Dans le jardin de Gethsémané, au moment où on venait de l'arrêter, tous les disciples l'abandonnèrent et fuyèrent. Alors vous me dites, oui, mais ça c'est Jésus. Mais je vais vous donner le nom de John Wesley, je vais vous donner le nom de Charles Finney. John Wesley, parce qu'il a prêché le salut sur la foi, il a fermé toutes les églises en Angleterre. Et encore une fois, ça a concouru au bien de John Wesley. C'était un religieux. L'Évangile pour lui ne pouvait être prêché autre qu'ailleurs que dans l'Église. Et parce qu'on lui a fermé toutes les églises et que son ami John Whitfield prêchait à l'extérieur, eh bien, il a été attiré par Whitfield à prêcher à l'extérieur. Alors que les églises étaient mortes, qu'il y avait 15-20 personnes dans les églises, Dieu lui a permis de prêcher à l'extérieur devant des foules de 30 000 personnes. Il pouvait dire comme Joseph, « Vous avez complété de me faire du mal, mais le mal que vous avez complété, Dieu le tourne en bien pour moi. » Il n'y a personne qui s'occupait des mineurs. Il n'y a personne qui s'occupait des pauvres en Angleterre à cette époque-là. Alors Dieu est allé chercher un homme, pour proclamer l'Évangile à l'extérieur. Ouais. Dieu tourne en bien ce que le diable a voulu faire à travers le clergé à son époque. Et John Wesley commençait à prêcher à des foules à l'extérieur. Frères et sœurs, ce que vous vivez, si les gens complotent pour vous faire du mal, tôt ou tard, ils vont en payer les conséquences, comme les frères de Joseph, comme tout le monde. Mais vous, Dieu, ça va vous faire du bien, ça va être pour votre bien. Amen. Ça, c'est vraiment important. C'est un principe qui est biblique, ça. Alors qu'il est suspendu sur la croix et qu'il porte nos péchés, il voit Dieu se détourner de lui. Et il a enduré ces choses afin qu'il puisse nous aider lorsque nous faisons face à un besoin particulier dans notre vie. Il sait ce que c'est que de manquer du nécessaire et être dans le besoin. Il dit ceci, « Si les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, eh bien moi-même, je n'ai pas un endroit où je puis me coucher ou reposer ma tête. » Il sait que certains ont beaucoup d'argent au point de ne pas savoir quoi en faire, mais aussi il sait aussi que tous n'ont pas ce privilège et ils pourvoient leurs besoins dans les moments difficiles. L'argent n'est pas un problème pour lui, frères et sœurs. Il peut même aller chercher des pièces dans la bouche d'un poisson. Pierre, on doit des impôts, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Va lancer la ligne. Allez, pas ton filet, ta ligne, tu vas en avoir assez. Premier poisson, tu vas voir, on va avoir une pièce d'argent, ça va être suffisant pour payer nos impôts. Tiens. Et nous, on fait attention, hein? On fait attention à notre argent. Il ne faut pas que nos comptes de banque baissent. Le premier Rockefeller, ça l'a rendu malade. Il valait des milliards. Il n'était pas capable de manger un steak. Son estomac était détruit. Il prenait le journal à chaque matin pour regarder si son fortune n'avait pas descendu d'un centime. Ça le rendait malade. Il prenait des pots de bébé. Vous imaginez un milliardaire obligé de manger que des pots de bébé. Tellement que son estomac était foutu. Et il a compris que quand l'argent que Dieu lui avait donné, c'était pour redistribuer, il a fait construire les hôpitaux qu'il a toujours subventionnés. Et ça continue encore aujourd'hui. Eh bien, son estomac s'est remis en place, il a pu manger des repas convenables, quoi. Ouais. Vous savez lesquels qui sont les plus radins dans la vie? Je vais vous dire lesquels qui sont les plus radins qui sont attachés à leur argent. C'est ceux qui ont de l'argent dans leur compte de banque. Moi, c'est ce que je constate dans ma vie. Quand j'avais mon entreprise, les plus exigeants, c'étaient les riches. Tu leur demandais 500 euros pour faire le service, ils en voulaient pour qui les autres. Tu avais des pauvres, tu leur demandais 500 euros. Ils disaient, non, écoutez, non, faites pas ci. Écoutez, vous m'avez quand même payé pour que je le fasse. Non, écoutez, c'est pas important pour moi. Aïe, quelle différence. Et le pauvre, il voulait être certain non seulement d'en avoir pour son argent, mais qu'il gagnera en plus, quoi, qu'il t'exploitera en plus, quoi. Ouais. L'amour de l'argent est le commencement de tous les maux, frères et sœurs. Troisièmement, rapidement, il a la capacité de résoudre vos problèmes. Dieu a la capacité de résoudre vos problèmes. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, verset 16, afin de trouver miséricorde, d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que vous vous approchez du trône de la grâce quand vous vivez des problèmes? C'est ce que le verset dit ici. Approchez-vous du trône. Regardez ce qu'il dit. Avec assurance, avec certitude, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Le Seigneur invite l'homme à venir à lui pour trouver l'aide dont il a besoin pour affronter la vie. Pourquoi est-il celui que nous utilisons souvent en dernier ressort alors qu'il devrait être le premier? Nous sommes tellement coupables d'essayer n'importe quoi d'autre avant de nous approcher de lui pour lui demander de l'aide. Ne nous a-t-il pas dit, lorsque nous traversons des moments difficiles, de ne pas nous inquiéter de rien, mais en toutes circonstances de lui demander dans la prière ce dont nous avons besoin et de le faire avec un cœur reconnaissant? Et qu'est-ce qu'il nous donne comme promesse? Que sa paix qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera nos cœurs et nos pensées en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout puissant, frères et sœurs. Ceux qui étaient assis sur des trônes, les rois qui siégeaient sur des trônes à l'époque, qui faisaient trembler les peuples, qui avaient le droit de vie et de mort sur ces peuples, ne sont rien à comparer avec la puissance qui se trouve en Jésus-Christ. Imaginez la puissance que Jésus possède, frères et sœurs. Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Éphésiens chapitre 3, 20, c'est un verset qu'on doit apprendre par cœur. Dieu a le pouvoir, la puissance de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons. Vous imaginez? On n'ose même pas demander, donc on ne peut pas rien recevoir. Mais on nous dit que Dieu a la puissance de nous donner au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on y a, par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit. Dieu a le pouvoir de pourvoir à tous nos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ, Philippiens 4, 19. Et il prend soin de nous pour que nous puissions comprendre qu'il est notre Dieu. Amen. Avez-vous remarqué une chose? On a hâte, quand on est enfant, de monter dans la, de devenir des adultes, hein? Et plus on avance en adolescence, le mal que le monde nous fait, plus on avance aussi comme adulte, là, eh bien, plus on avance, plus notre foi diminue, hein? Vous savez quoi? Nous, on était une famille pauvre, hein? 8 enfants, père d'un ouvrier, quartier criminalisé, où on devait se battre au moins une fois par semaine pour réussir à se faire de la place puis se faire respecter. Je n'ai jamais, jamais douté que mon père qu'il aurait jamais une assiette sur la table pour que je puisse manger. Et ma mère, elle en a fait des mets avec des restants. Hein? Elle en a fait, hein? Et ça me contentait, hein? J'avais foi en mes parents qui pourvoiraient à mes besoins. C'était leur responsabilité. Frères et sœurs, c'est la responsabilité de Dieu de pourvoir à vos besoins. Je ne parle pas d'encourager les paresseux à rien faire, parce que le Seigneur il dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Mais je parle de ceux qui travaillent de peine et de misère, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Dieu s'est engagé, c'est sa responsabilité, à pourvoir à leurs besoins. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on y croit? Il a le pouvoir de nous purifier de tout péché à travers le sang de Jésus, son Fils. 1 Jean 1, verset 7. Il a le pouvoir de guérir. Nous avons de nombreux exemples dans les Évangiles. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit dans une autre église. Dieu dit qu'il guérit toutes les maladies, mais il n'a jamais promis de guérir toutes les maladies. Le choix de Dieu pour guérir dépend de... C'est lui qui décide comment il va se glorifier. Et on n'a pas à chercher, mais Seigneur, pourquoi? Je l'ai dit, il ne faut pas comprendre, mais croire que peu importe ce que Dieu permet, c'est le meilleur. Notre problème, hein, c'est qu'on voudrait que Dieu réponde à nos prières, mais souvent qu'ils sont égoïstes. C'est pour moi, Seigneur. J'ai oublié, je pense même pas que tu... Tu as de l'objet, ça, c'est... J'y pense même pas, mais pense à moi, Seigneur, pense à moi. Et quand on... Et vous savez comment on le sait, ça, c'est que quand on vient en prière, les premières choses, on ne prie pas pour les frères et sœurs, on ne prie pas pour l'état du monde, on ne prie pas pour les choses en général, on commence à prier pour nos besoins à nous. Bien, ça, c'est extrêmement égoïste de commencer une prière comme ça. Hein? Extrêmement égoïste. Hein? Et on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu réponde. Hein? C'est impossible, hein? C'est pas la règle de la prière, ça. Si nous venons à lui en lui apportant nos fardeaux, il a le pouvoir de nous donner le repos dont nous avons besoin. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il a le pouvoir de déplacer des montagnes de la vie auxquelles nous devons faire face, frères et sœurs. Avez-vous une montagne devant vous ce matin qui vous empêche d'être heureux? Avez-vous une montagne ce matin qui vous empêche finalement d'avancer? Bien, remettez cette montagne entre les mains du Seigneur parce qu'il a les capacités de déplacer les montagnes, frères et sœurs, d'aplanir les sentiers. Il a le pouvoir sur toutes choses puisque tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Frères et sœurs, il a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, et souvent le petit peu que nous demandons, eh bien, nous ne réussissons même pas à le recevoir. Alors que la parole, elle nous dit qu'il a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons. Frères et sœurs, trouvez-vous ça logique? Que Dieu réponde à des prières qui sont faites par des païens et que Dieu ne réponde pas aux prières qui sont faites par ses enfants. La Syro-Phénicienne, le centenier, Corneille et d'autres encore dans la parole. Qu'est-ce qu'il dit du centenier? Je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi dans Israël. C'est ça, non seulement on peut avoir infiniment plus que ce qu'on demande, mais on ne l'a pas à cause de notre manque de foi, souvent. Souvent, on n'est même pas convaincu qu'on va recevoir avant de même de venir demander au Seigneur. Le Seigneur, il dit, bien, écoute, c'est ton problème, débrouille-toi avec tes forces, débrouille-toi avec tes petites capacités, qu'est-ce que tu veux faire? Non seulement je ne te donnerai pas au-delà de ce que tu me demandes, mais tu ne recevras rien, quoi. Si nous nous approchons de lui par la foi, il nous a fait une promesse, nous trouverons tout ce dont nous avons besoin pour répondre aux besoins de notre cœur et pour notre vie. Il a promis de nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à avoir peur, car il a pris notre Père de donner le royaume, dit Jésus. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Si nous demandons, nous recevrons. À Matthieu 7, verset 7 à 11, on va le voir en étude biblique bientôt, mais si nous demandons, nous recevrons. Si on demande, promesse, on va recevoir. Si nous cherchons, promesse, on va trouver. Si nous frappons, promesse, on va nous ouvrir la porte. Pourquoi est-ce qu'elle reste fermée, la porte? Pourquoi est-ce qu'on demande qu'on ne reçoit pas? Pourquoi est-ce qu'on frappe? Pourquoi est-ce qu'on cherche et on ne trouve pas, frères et sœurs? C'est la faute de Dieu. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et on ouvre la porte à qui frappe. Promesse du Seigneur. Si ça n'arrive pas dans ma vie, ces trois choses-là, ce n'est pas la faute de Dieu. Je vais lire la parole et dire, qu'est-ce qui empêche Dieu de me donner, de me trouver, de permettre de frapper, d'ouvrir les portes? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche Dieu de répondre à cette prière? C'est ça, hein, la question. C'est pas Dieu m'aime pas, c'est pour ça qu'il ne répond pas. Non, non. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il demande du poisson? Tout mauvais que vous êtes, dit Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il me reste trois paragraphes. Mais j'aimerais simplement vous raconter quelque chose de particulier. Quand vous entendez le témoignage d'un jeune chrétien, vous êtes épaté, ébloui de voir tout ce que Dieu lui donne. Vous écoutez ses prières, c'est des prières d'enfants. Et vous savez ce qui fait la différence, pourquoi il est béni et pourquoi il reçoit? À cause de sa foi si simple. Il ne met pas de conditions quand il prie. Il s'appuie surtout sur les conditions de Dieu pour répondre à sa prière. Mais il ne vient pas mettre des conditions, placer des conditions à Dieu pour qu'il exauce sa prière. C'est là qu'est toute la différence. Je ne vous dirai pas qui. J'étais avec Ernest jeudi, on est allé à une réunion de prière. Et on a passé un moment béni parce qu'on a entendu deux jeunes chrétiens nous rendre témoignage de ce que Dieu fait dans leur vie. Vous savez, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de rendre témoignage parce qu'un vieux chrétien risque d'envier ces jeunes chrétiens de recevoir tout ça de la part du Seigneur. Et là, tu écoutes ce témoignage-là, mais tu dis, maintenant, pourquoi, Seigneur, on a arrêté de vivre ça, nous? Pourquoi quand on parle de toi, il n'y a pas une flamme, il n'y a pas un feu là, qui sort de notre bouche? Pourquoi nos yeux ont arrêté de briller, Seigneur? Je regarde les yeux de ces jeunes chrétiens, là, ça pétille. J'étais à Interbake la semaine passée, durant leur campagne cet été, la même campagne que nous. Il y a un jeune homme de 20 ans là, qui a accepté le Seigneur. Hey, il est rentré dans l'église. Là. Mes amis, mais quelle source de vitamines, quoi! Hey, il vient de découvrir, il était adopté par Dieu. Dieu lui a donné une nouvelle famille. Il est passé, là. Hein? Il a embrassé tous les frères et sœurs dans la salle, quoi. Moi, je ne lui dirais pas que c'est déplacé, c'est un jeune chrétien, quoi. Mais pour un vieux, c'est, ah, il manque d'ordre, lui. Hein? Oh, oh, écoute, pas possible de passer dans les rangées juste avant le culte pour embrasser tout le monde. Hein? Mais vous voyez la joie du salut sur son visage. Hey, il est orphelin, Dieu lui donne une nouvelle famille, quoi. Hey, moi, je t'ai béni en avant. Ça me dérange, moi aussi. Je suis un gars qui aime quand même avoir de l'ordre, une certaine discipline. Hein? Mais je me dis, je veux-tu aller le tuer? Moi, je veux-tu aller briser sa joie? Hein? Je suis qui pour aller briser sa joie, moi? Et là, vous savez ce que ça a fait? Il y avait des gens qui avaient le visage long, ils ont embrassé. Ouais, mais il y a un petit sourire discret qui est apparu sur le visage des vieux chrétiens, quoi. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous a fait perdre ces yeux qui brillaient? Qu'est-ce qui nous a fait perdre cette joie qu'on avait? C'est quoi l'obstacle dans notre vie? Est-ce que c'est le péché? Est-ce qu'on a oublié ce que Dieu a fait dans nos vies? Est-ce que la croix est devenue une routine pour nous? On a besoin de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le sang de l'Église. Quand l'Église manque de sang, elle est comme les corps, elle meurt. N'en déplaise à quiconque, l'évangélisation, c'est quelque chose d'important dans l'Église. On tombe tellement facilement dans la routine. Je ne vous dis pas de faire sortir toute l'Église à toutes les semaines. Mais quand on a l'occasion de rendre témoignage, on doit le faire. Parce que si vous ne le faites pas, le diable va utiliser quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Et ce ne sera pas pour l'amener, ce ne sera pas pour le gagner pour le ciel, ça va être le gagner sur le chemin de l'enfer. Nous pouvons prier plusieurs fois le Seigneur de nous délivrer d'une situation difficile. Et retenez bien ça aussi, ça vient de la bouche de l'apôtre Paul. Nous pouvons prier plusieurs fois le Seigneur de nous délivrer d'une situation difficile. mais il peut aussi nous répondre. Ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible, afin que la puissance de Christ étende sa protection sur toi. La grâce, ça nous contente. Ça ne nous suffit pas, la grâce de Dieu. Honnêtement, en tant qu'être humain, hein, ça ne nous suffit pas d'entendre cette réponse. On va avoir du concret, on vit dans ce monde-là. Télé-réalité, bling-bling, ping-cling, des lumières à gauche, des rouges, des vertes, ça nous prend ça. Danse avec les stars, ce qui est sensuel, ça nous en prend. On est excité par la télévision, par différents programmes de télé-réalité, on est excité, corps, âme et esprit. Frères et sœurs, quand le Seigneur dit « Ma grâce te suffit », wow! Wow! Rappelle-toi, ma grâce te suffit, rappelle-toi que tu m'appartiens. Rappelle-toi le prix que j'ai payé. Rappelle-toi la responsabilité que j'ai envers toi. Ma grâce te suffit parce que c'est dans ta faiblesse que le nom de Jésus va être glorifié. Mais Seigneur, c'est pas juste de ta grâce que j'ai besoin. Ma grâce te suffit. Je t'aime. Ma grâce te suffit. Je veux ton bien. Ma grâce te suffit. Tu vas passer l'éternité avec moi. Ma grâce te suffit. Tu voudrais que je te retire ma grâce pour t'accorder égoïstement ce que tu me demandes? Tu serais prêt à aller en enfer pour rejeter ma grâce? Méditez sur la portée quand Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit parce que je ne veux pas que tu te vendes, Paul. » Parce que Paul, la tête va te gonfler si j'accorde ce que tu me demandes pour l'instant. Ma grâce te suffit parce que c'est à travers ta faiblesse, à travers la maladie que tu as, qui te travaille, que je viens de glorifier. Frères et sœurs, avez-vous déjà été tentés d'abandonner la foi? Avez-vous eu l'impression que la charge que vous portez présentement devient trop lourde à certains moments? Peut-être que Satan ou des gens insensés vous encouragent à abandonner. N'abandonnez pas, venez à Jésus. Il veut, il est capable de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour passer à travers ce que vous vivez ce matin, si c'est le cas. Et ce, peu importe la difficulté. Si par la foi, vous lui faites confiance pour s'occuper de votre problème, il le fera. Amen! Il le fera! Y a-t-il quelque chose que vous avez besoin d'apporter à Jésus maintenant? Apportez-lui! Et si vous vous présentez devant Jésus après avoir consulté d'autres, soyez convaincus que dans sa grâce, il ne vous le reprochera pas. Pensez à la femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Elle a été voir les médecins tant aussi longtemps qu'elle avait de l'argent. Chaque médecin la rendait pire qu'elle était. Et quand elle n'avait plus d'argent, il n'y a plus personne qui voulait la soigner. La mutuelle n'existait pas dans le temps de Jésus. Plus personne n'a voulu la soigner. Elle était sur le point de mourir, cette femme-là. Et là, elle a pensé à Jésus. Le texte nous dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle n'y a même pas parlé. Elle a touché à son vêtement. Par la foi, Jésus a dit, ouais, il y a une force qui est sortie de moi. Et c'est ça la foi, hein? C'est ça, la foi, hein? Ouais. Je vais faire attention aux termes que j'utilise, là, mais la foi pousse Dieu à agir. Ouais, puis il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a des milliers de personnes, hein? Les apôtres sont là, ils bloquent. Ils bloquent les gens, comme des bodyguards auprès de nos politiciens. Ils bloquent les gens, ils les repoussent pour pas que Jésus soit écrasé, hein? Ouais. Et là, Jésus dit, qui m'a touché? Il le savait qui l'avait touché, hein? Qui m'a touché? Et là, elle vient, elle a de la peur, hein? Et le texte biblique nous dit qu'elle lui raconte sa vie, quoi. Elle lui partage. Savez-vous, frères et sœurs, ce qui arrive dans cette histoire-là? Il y en a une seule qui a été guérie. Il y a des milliers de personnes autour. Et vous savez pourquoi ils ne sont pas guéris? Parce que la foule, elle est venue pour voir. Mais elle n'a pas voulu recevoir. Elle est venue pour recevoir et non pas simplement pour contempler Jésus. Et souvent, le dimanche, c'est ce qui arrive dans nos églises. On vient voir nos frères et sœurs, mais on ne vient pas pour recevoir la part que Dieu en réserve pour chacun de nous. Et Dieu, ce matin, a une part pour vous, frères et sœurs. Dieu a une part qui vous a réservée à travers ce message. Je ne sais pas c'est quoi, moi, je suis un petit homme, hein? Mais Dieu a une part pour vous, ce matin. Vous allez sortir d'ici les mains vides, quand vous êtes rentrés, vous allez sortir les mains pleines, parce que Dieu a répondu à vos prières, parce que Dieu vous aura consolé, parce que Dieu vous aura encouragé, parce que Dieu vous aura fortifié, parce que Dieu, vous savez maintenant que Dieu vous soutient. Et si vous allez voir quelqu'un d'autre avant pour répondre à un besoin, bien, quand vous venez et que ce besoin n'est pas répondu, bien, présentez-vous devant Dieu, dites, Seigneur, je te demande pardon parce que là, tu n'es pas le premier, tu es le deuxième. Je te demande pardon. Et Seigneur, dans sa grâce, il vous accorde son pardon. Pardon, Seigneur, mon manque de foi. Je suis allé voir un homme, je suis allé voir une femme, je suis allé voir un tel pour me sortir du pétrin. Pardon, Seigneur, d'abord, je ne suis pas venu te voir pour t'adresser ma prière. Si avez-vous quelque chose à apporter à Jésus ce matin? Si c'est le cas, venez à lui tel que vous êtes et laissez-lui prendre la place qu'il veut occuper dans votre cœur et dans votre vie. Il est tout ce dont vous avez besoin. Amen. On va demander à Jean-François de rester assis. On va demander à Jean-François de passer un camp.